France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Pom, 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 bonne nuit les petits. Notre invité, s'il ne prétend pas se substituer aux marchands de sable, nous souhaite bonne nuit, good night, 16 berceuses rassemblées sur ce disque qui paraît dans une semaine. Quelques titres sont d'ailleurs déjà disponibles en numérique. Bonjour Bertrand Chamaillou.
Et bonjour.
Avez-vous bien dormi cette nuit?
Oui, relativement peu comme souvent, mais j'ai bien dormi.
Je suis insomniaque, c'est la première phrase du texte que vous signez dans le livret qui accompagne ce disque, un texte assez personnel. Vous parlez de ces difficultés à vous endormir, de la frontière entre rêve et réalité, de la paternité aussi. C'est un projet que vous portiez en vous depuis très longtemps?
Oui et non, c'est-à-dire que c'est, en fait, depuis très longtemps, j'aime beaucoup le genre de la berceuse, c'est vrai. C'est lié peut-être à plein de choses. Il y a peut-être quelque chose de psychanalytique que je ne maîtrise pas, d'ailleurs,
allons-y,
je ne sais pas. Mais c'est aussi avant tout, je pense que c'est le côté un peu hypnotique, répétitif. L'utilisation au piano souvent de sonorités un peu cristallines que j'affectionne particulièrement dans les aigus du piano. Donc ça, je pense que c'est aussi une des choses que j'aime bien. Et surtout, les berceuses au piano, il y en a pas tant que ça, mais elles ont été souvent magnifiquement traitées depuis Chopin. Il y a un répertoire qui est... Bon, il y a des choses connues quand même. Enfin, je veux dire, c'est un genre qui a dépassé complètement la simple comptine, quoi. Enfin, je veux dire, au piano, dans d'autres instruments, il y a des berceuses magnifiques aussi pour la voix, etc. Mais particulièrement, je crois que avec la berceuse de Chopin en particulier, le genre... est beaucoup plus élaboré au piano, et on a des choses qui sont fantastiques parce que ces pièces qui sont dans le domaine de l'onirique, voilà, et qui moi me touchent particulièrement puisque effectivement j'ai du mal à m'endormir le soir et que je passe par tout un tas d'états émotionnels, mais globalement il est vrai que c'est aussi parce que j'aime beaucoup la nuit et que j'ai beaucoup de mal à me soustraire à l'idée de ne pas en profiter.
Bertrand Chamaillou retient la nuit comme Johnny, ce disque album de 16 berceuses, en voici la plage la plus connue, encore plus que Chopin de tous, je pense, tube des boîtes à musique, celle de Brahms.
De Brahms.
Ne vous endormez pas. Bon réveil à 8h34 sur France Musique. C'était la berceuse de Brahms sur ce disque Good Night qui sort physiquement le disque dans une semaine. Il y a déjà quelques plages disponibles en digital. Le nouveau disque de Bertrand Chamaillou chez Erato. Vous avez un peu fait des recherches sur la berceuse. Elle naît quand et depuis quand on écrit des berceuses, Bertrand?
Les berceuses, c'est séculaire, hein, d'ailleurs dans la musique populaire aussi, enfin, je pense. Par contre, effectivement, comme je le disais, je crois que le genre se transforme réellement à l'époque romantique. Il y a des berceuses à l'époque de Mozart qui restent quand même encore dans un esprit un peu boîte à musique. C'est peut-être Schubert le premier, avec certains leaders qui commencent à exploser un petit peu le genre. Et au piano, c'est clairement la berceuse de Chopin qui est un manifeste vraiment, mais qui reste quand même sur une idée très simple, c'est qu'on balance deux accords pendant tout le long et on brode par-dessus. On fait une sorte d'improvisation avec la...
Ça revient tout le temps, ça.
Ça revient tout le temps, tout le temps. Alors après, il y a des compositeurs, notamment Liszt, par exemple, où là, ça part quand même complètement dans les tours et on sort carrément de la berceuse à bien des occasions. Des compositions russes, par exemple Balakirev, où effectivement, voilà, ça devient presque un prétexte. On est dans un monde onirique, on a quelque chose effectivement qui est hypnotisant, qui traite un petit peu de ça, de l'endormissement, parfois dans des musiques à programme. Et puis on a au XXe siècle, notamment beaucoup beaucoup de compositeurs qui s'y sont essayés, parfois dans des atmosphères complètement différentes. On n'a plus forcément ce balancement de deux accords, d'ailleurs. Ça peut être des berceuses ternaires, des berceuses à trois temps, à quatre temps, enfin bon, etc. Et l'idée de la berceuse, elle est reliée en fait à l'imaginaire qu'on a autour de ça, beaucoup plus qu'à un genre vraiment défini. Et parfois, on a des berceuses qui sont carrément angoissantes.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Et parfois, elles ne sont pas toujours apaisantes, notamment les plus récentes.
Les plus récentes, même, je dirais, par exemple, une qui est, moi, je trouve très angoissante, c'est celle de Martinou, qui est sur le disque. Je trouve qu'il vraiment glace le sang. Mais c'est aussi ça, c'est-à-dire que quand on s'endort le soir, c'est aussi la vision qu'on a. La berceuse, c'est pas forcément quelque chose qui est réservé à l'enfant. C'est-à-dire qu'on a tous, je pense, un rapport à ça, au besoin d'être assuré. Et effectivement, en s'endormant, il y a tout un monde émotionnel qui, je pense, chez tout le monde. Il y a des gens qui s'endorment immédiatement, d'autres qui mettent du temps, comme moi. Mais enfin, tout le monde connaît, je pense, un petit peu ce moment, le soir, où il y a plein de choses qui défilent, et parfois des choses très agréables, des choses moins agréables. Et ça, ça concerne absolument tout l'être humain. Et je trouve que le genre de la berceuse, là, enfin, tel que j'ai essayé de faire un petit panel comme ça de 16 pièces, curieusement renvoie, je trouve, à tout ça. D'ailleurs, ce disque, je pense qu'il a un côté justement un peu hypnotisant et avec quand même un panel d'émotions subtiles qui change énormément. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas, de composer un ensemble, mais qui renvoie effectivement à cet état un petit peu où justement on est à moitié hypnotisé et émotionnellement il se passe vraiment beaucoup de choses.
D'ailleurs, c'est un disque que vous dédiez à vos enfants. Vous leur jouez des berceuses ou vous leur en chantez ?
Oui, alors j'en ai joué quelques-unes. Enfin, il y a notamment La deuxième plage, c'est une petite berceuse de Liszt que je jouais beaucoup à mon premier fils. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui a restimulé, parce qu'en réalité, ce projet, je l'ai un petit peu en tête depuis longtemps. Mais c'est vrai que c'est ce qui a un peu restimulé cette idée. Comme aussi, d'ailleurs, l'idée de traiter un petit peu le format album concept, streaming. Je trouvais intéressant, parce qu'en général, ces disques qu'on fait comme ça, un peu avec des listes de petits morceaux, etc., c'est traité comme... toujours, enfin à mon goût, hein, sous le prisme hyper commercial, etc. Et je me suis dit, comment s'essayer à un genre comme ça ? Ça m'a beaucoup intéressé, parce que j'écoute personnellement des choses aussi en streaming, tout ça, en essayant de faire quelque chose qui est quand même une certaine tenue, une certaine substance.
D'ailleurs, je ne sais pas si ça vient de vous, Bertrand Chamaillou, mais ça aurait pu être un packaging différent, avec un bébé sur la couverture, une pochette bleu clair. Mais non, c'est en noir et blanc. D'ailleurs, la pochette est légèrement angoissante, à mon avis, inspirée de Paul Klee. Good night.
Ça vient effectivement de moi, mais c'est marrant que vous l'avez. Il y a plein de façons de la voir différentes. Moi, je la trouve extrêmement tendre, cette pochette, avec ce couple perché comme ça qui regarde la lune. Mais effectivement, je voulais pas tomber dans le côté, le landau, etc. Voilà. C'est pas du tout le projet.
Alors, vous avez collecté, il y a des tubes, on vient d'en entendre un, et puis des pièces totalement méconnues, voire inconnues, comme celle-ci. Thank you. La toute petite Sandor, extrait des Miocheries de Mel Bonis, Bertrand Chabaillou au piano, sur ce disque Good Night, avec cette belle pochette en noir et blanc, un disque qui paraît chez Erato. Vous avez fait aussi un travail de recherche, de collecte, pour trouver aussi des berceuses comme celle-ci, très Mel peu Bonis, connue.
Oui, très peu connue, de moi-même d'ailleurs, jusqu'à l'année dernière. Oui, j'ai fait évidemment un travail de recherche. Ensuite, j'avais une charpente un petit peu en tête, mais ça, c'est aussi une des réjouissances quand on a trouvé un projet comme ça qui paraît bien fonctionner. J'avoue qu'au départ, je me posais la question de la pertinence de ce projet en me disant ça allait être très redondant. Et je me suis dit quand même, essaye de composer une liste de pièces. Et très vite, ce qui m'est apparu, c'est que effectivement, il y avait une grande variété possible. Et donc je me suis pris au jeu effectivement de... Moi j'adore ça, bon, à la maison aller un peu à la recherche au trésor dans les partitions, essayer comme ça de consulter des catalogues de compositeurs en essayant de trouver, donc j'ai collecté un certain nombre de berceuses, et donc je peux annoncer que j'ai de quoi faire au moins 3 disques avec ce que j'ai trouvé, et bon j'ai fait une première sélection, mais il y aurait moyen de développer parce qu'il y a vraiment plein de petites merveilles comme ça dans les... Particulièrement, je dirais, dans les miniatures. C'est vrai que les très grands chefs-d'œuvre méconnus, ça existe, mais c'est quand même plus rare. Mais dans les petites choses qu'on trouve dans des recueils parfois, qui sont égarées au milieu de recueils, parfois moins intéressants si on prend tous les recueils, mais il y a des petites pépites comme ça qu'on trouve ici et là.
Bertrand Chabaillou, vous qui êtes habitué à des grands cycles, de plonger dans un compositeur, Ravel par exemple, des pages longues,
je vais y revenir,
complexes. Hein. Ravel demain et samedi soir ici à l'auditorium de Radio France, les deux concertos. Justement, ces miniatures, leur simplicité, leur brièveté, ça vous fait peur d'enregistrer une pièce qui dure une minute ?
Pas du tout. Non. Bon, quand je joue, vous savez, des très grands cycles, il y a aussi dedans beaucoup de pièces très courtes. D'ailleurs, ce qui me fait le plus peur, ce serait plutôt de me lancer dans une Hammerklavier ou des choses comme ça, de Beethoven. Ça m'effraie beaucoup plus que de me lancer dans des petites scénettes comme ça. Mais pour les grands cycles, je vais y revenir. Mais là, j'avais justement besoin d'une parenthèse. Et je veux dire que ce projet, voilà, m'a fait beaucoup de bien aussi. M'a fait un petit peu respirer et j'en suis très heureux.
Vous avez travaillé, vous avez enregistré avant le confinement, en début d'année.
Juste avant le confinement. C'est une histoire d'ailleurs assez dingue parce que j'ai enregistré sur mon propre piano que j'ai amené en région parisienne dans une chapelle et puis je l'ai fait passer à l'atelier pour révision, puis on a été confinés donc j'avais plus de piano.
Ah bon ?
Voilà, pendant le confinement à cause de ce disque. Mais bon, j'ai travaillé sur plein d'autres choses et notamment à éditer l'album à distance. Voilà.
C'est une expérience particulière et inédite.
Voilà.
Et vous avez enregistré de nuit ? C'est berceuse.
Non, je serais de nuit. Là aussi, pour une raison qui n'était pas forcément poétique au départ, c'est qu'on s'est rendu compte la veille de l'enregistrement qu'autour de la chapelle où nous avons enregistré, il y avait des travaux. Et qu'on ne pouvait pas enregistrer, ouvrir le micro avant 18h parce qu'il y avait trop de bruit à l'extérieur. Et bon, la maison de disques était paniquée. Enfin, Warner me dit comment on fait, etc. Et j'ai suggéré à tout le monde d'enregistrer plutôt le soir, la nuit, déborder largement sur la nuit. Donc on commençait à 18h, on finissait souvent vers 1h, 2h du matin. Mais bon, tout le monde a joué le jeu et évidemment, ça nous a aussi porté cette ambiance parce que là, on était vraiment au cœur du sujet. Au moment où il y en avait pas mal qui voulaient s'endormir, on était en train d'enregistrer les berceuses, donc c'était parfait.
Après, on va parler tout à l'heure de cette période évidemment particulière. Il y a eu des premiers concerts, les concerts enregistrés. Et puis, c'était dans votre ville, à Toulouse, fin juin, un concerto de Ravel avec l'orchestre du Capitole. Quel souvenir vous avez de ce concert-là?
Eh ben, je dois dire, moi déjà, je dois dire que je suis très chanceux parce que j'ai beaucoup joué j'ai beaucoup joué cet été. Actuellement, j'ai une activité qui est assez riche quand même. J'ai réussi à me réorganiser avec mes agents, etc. C'est pas le cas de tout le monde. C'est quand même, il faut le souligner. Et là, c'était mon premier concert public en fait, puisque j'avais fait un concert capté juste avant pour Medici TV. Mais là, premier concert public à Toulouse. Et c'était étrange parce que tout le monde était... Je veux dire que depuis, curieusement, on a l'impression qu'on s'est réhabitué malgré tout, avec des conditions différentes. Mais là, je pense que tout le monde était un peu sonné quand même au mois de juin. Le public, donc, voilà, masqué. Il y avait un côté très différent. Personne ne tousse plus jamais au concert, faut quand même le souligner. C'est quand même bien étayé avec la théorie dont j'étais absolument persuadé. Mais enfin, que la toux au concert, c'est quand même à 99% un phénomène nerveux, mais voilà, ça c'est assez amusant. Et là, ce concert à Toulouse, ben moi, écoutez, j'étais très enthousiaste en même temps, j'appréhendais beaucoup. Et je veux dire qu'après avoir joué le concerto de Ravel, et pourtant c'était un moment hyper heureux, je veux dire, à Toulouse, dans ma ville natale, avec l'orchestre que j'adore, Tougan Sokiev que j'adore, etc. J'ai eu, je pense pour la première fois de ma vie, juste après avoir joué, une espèce de descente émotionnelle assez forte. Alors je sais pas si c'était un mélange de plein de choses, une forme peut-être de nostalgie paradoxale du confinement aussi, enfin il y avait quelque chose de très bizarre. Ça a été assez dur pour moi de reprendre, mais là depuis je suis assez chanceux, bon j'ai repris un rythme et un contact avec le public, voilà, pourvu que ça dure.
Ravel, demain soir à l'auditorium de Radio France et en direct sur France Musique avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Fabien Gabel, dirigé par Mico Franck. Non, je suis en train de confondre les deux orchestres. Fabien Gabel, c'est ce soir. C'est, voilà, que c'est le direct et parfois on parle sans regarder ses notes.
Ah non, il n'y a pas de problème. J'aime beaucoup Fabien par ailleurs.
Demain et samedi, le concerto en sol, c'était en 2013. On remonte un peu le temps et vous jouiez cette fois avec, j'espère que je ne dis pas de bêtises, l'Orchestre français des jeunes à Vichy. les applaudissements à l'Opéra de Vichy. En 2013, l'Orchestre français des jeunes dirigé par Dennis Russell Davis. Et c'était bien vous, Bertrand Chamaillot, vous confirmez?
Oui, je reconnais. Vous reconnaissez? Je me souviens de ce concert, effectivement.
Le presto, le concerto en salle de Ravel. Vous ne vous souveniez pas que c'était enregistré par France Musique?
Non,
les micros de France
pas.
Musique sont partout, par exemple. Ils étaient le 10 août à la Roque d'Anthéron. Vous pouvez réécouter ce concert magnifique, liste des années de pèlerinage sur francemusique.fr. Demain et samedi, et les micros de France Musique seront là également en direct demain, les deux concertos avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par le maestro Mikko Franck, demain le concerto pour la main gauche, le samedi le concerto en sol, dans une nouvelle édition. De quoi s'agit-il, Bertrand Chameau? Il y a beaucoup de différences entre ce qu'on entend habituellement?
Il y a des différences. Alors, vous n'allez pas forcément sauter au plafond tout de suite en disant que c'est une nouvelle œuvre. Non, on reconnaît bien quand même la pièce telle qu'elle est, mais il y a quelques petites différences. En fait, il y a des petites différences partout. Il y a des détails partout. Il y a carrément beaucoup d'erreurs de notes qui sont corrigées, c'est-à-dire qu'il y a des notes qui sont pas les bonnes
dans la partie piano et dans la partie d'orchestre.
Partout, voilà. Après, c'est des choses de nuances, d'articulation, enfin des choses plus spécifiques. Il y a carrément des choses, par exemple, comme à la fin du concerto pour la main gauche, il y a une mesure qui a été enlevée. Donc, enfin, c'est une petite chose de carrure. Ça s'entend pas beaucoup, mais enfin, quand même, ça a son importance. Il y a des petits détails comme ça. Et donc, ça a été des choses qui ont, voilà. Il se trouve que les concertos de Ravel ont été écrits, il les a écrits à la fin de sa vie. Et vous savez, Ravel était pas bien, il a un problème cérébral à la fin de sa vie qui a fait qu'il ne pouvait plus écrire et qu'il était un peu perdu les 4-5 dernières années de sa vie. Et les concertos ont été édités en réalité après sa mort, enfin, l'année de sa mort. Il n'a pas pu vraiment collaborer au travail d'édition. Et il y a effectivement beaucoup de choses qui ont été questions un petit peu en suspens par rapport au matériel qu'on avait, et il y a effectivement des libertés qui ont été prises et des négligences beaucoup qui ont été faites dans l'édition. Simplement, une fois que ça a été gravé chez Durand en 1937, ils ont eu les droits. Et ça n'a jamais été révisé.
Et là, c'est révisé pour des raisons juridiques. On retrouve
on peut absolument
des manuscrits.
Voilà. Ben oui, les manuscrits, oui, absolument. On en a retrouvé, c'est un concerto en sol. Mais le main gauche qui était à New York, bon, on a pu surtout travailler dessus et puis pouvoir proposer quelque chose de différent. Je dis on parce que moi, j'ai collaboré au main gauche. Et j'ai suivi de près le travail qui a été fait sur le concerto en sol. Donc, il y a des choses à affiner aussi. Là, on est en train de voir avec l'orchestre parce qu'effectivement, ça va être la première fois qu'on joue ces versions. Mais enfin, globalement, ça lève effectivement, ça nettoie un petit peu tout un tas de choses. Et je dois dire que dans le main gauche en particulier, la partie de piano, elle est sensiblement modifiée. Encore une fois, ce ne sont pas des différences majeures, mais vous avez tout un tas de notes qu'on entend quand même beaucoup, des basses, ça, qui sont corrigées avec des bonnes harmonies, et bah, ça fait du bien.
Cette nouvelle édition Ravel, elle est valable d'ailleurs pour toute l'œuvre pour piano de Ravel?
L'œuvre en général, ils sont
très éditées. Tout réenregistrer, toute votre intégrale.
Peut-être qu'il va falloir que j'enregistre tout, on va découvrir que j'avais tout faux, j'en sais rien.
En attendant, les deux concertos, c'est demain soir et samedi soir avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Vous pouvez réserver vos places, il en reste quelques-unes sur maisondelaradio.fr. D'ailleurs, un concert où vous donnez ces concertos, mais vous jouez également des pièces pour piano seul. Demain, des créations de Yann Robin, samedi des études de Debussy. On voit que depuis quelques années, et notamment ici à la Maison de la Radio, la conception des concerts change. Et vous partagez ce sentiment qu'il faut un peu casser ouverture, concerto, symphonie?
Oui, enfin, moi je crois qu'il y a une chose en tout cas qu'il faut traiter dans la question du concert classique, c'est le cadre. Qu'il soit à tout niveau. Je veux dire, pourquoi un récital de piano, ça devrait être forcément 2 fois 45 minutes? Pourquoi un concerto doit être nécessairement après une ouverture, après pourquoi on doit avoir toujours les mêmes éclairages, pourquoi un orchestre doit être disposé toujours de la même manière. Il y a plein de contraintes qui sont liées à ça, qu'on connaît, qui sont des contraintes parfois économiques, qui sont des questions d'habitude, qui sont aussi des questions parfois de commodité. Bon, moi je trouve que c'est dommage parce que ça crée une lassitude, ça crée un manque de curiosité, un manque de surprise. Et ça, je pense qu'il faut traiter la question du cadre. C'est pas forcément faire des sons et lumières vulgaires, etc. Non, non. On peut faire des choses très, très raffinées, mais il faudrait adapter parfois au répertoire ou à l'idée qu'on veut. C'est quand même un spectacle. Quand un metteur en scène crée son espace, quand il met en scène une pièce de théâtre ou quelque chose, il a vraiment un espace à disposition et crée un spectacle. Nous, je veux dire, même sans faire des mises en scène délirantes, on pourrait tout à fait revoir la durée des concerts selon le programme qu'on joue, etc. Donc là, voilà. Et la création, très important. Je suis ravi de faire cette création de Yann Robin qui va être assez spectaculaire, vous allez voir. Et je crois remettre aussi un petit peu plus au cœur du projet, au centre du répertoire, la création. C'est quelque chose qui est fondamental, à mon avis, pour le développement de la musique classique.
Frédéric Chopin, la berceuse, on en parlait tout à l'heure, on l'entend en fond musical derrière vous, en avant-première exclusive sur France Musique. Ce disque sort le 9 octobre chez Erato. Merci beaucoup. Good night, Bertrand Chamaillou, c'est le titre de ce nouvel album. Pas good night, parce que là vous allez répéter avec l'orchestre.
Bonne journée surtout, oui.
Bonne journée, rendez-vous demain soir en direct sur France Musique à 20h avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Mico Franck. Et également samedi, ce concert de samedi qui sera diffusé le 22 novembre, si je ne m'abuse. Et voilà. 22 octobre, oui, on est en octobre.
22 octobre.
Non, on est le 1er octobre. Merci Bertrand.
À réécouter sur francemusique.fr.